Actu SF, les podcasts.
Alors bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreuses et nombreux à aujourd'hui à 13h. On va parler tous ensemble et avec nos invités de transformer son corps. Déguisement, costume et maquillage, on va essayer de comprendre pourquoi on aime se déguiser, pourquoi en France c'est peut-être un peu compliqué que dans d'autres pays où les gens sont peut-être plus tolérants et moins dans le jugement. On va aussi s'interroger sur les franchises où les gens aiment se déguiser, et puis sur, comme on a pas mal de spécialistes autour de la table, les conseils. Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est compliqué? Comment se lancer? Voilà, donc on va traiter de tout ça pendant une heure, et puis il y aura aussi des questions avec vous si vous avez des questions à poser en fin de conférence. Alors, et bien, parmi nous, on va commencer les présentations. Il y a Morgane Cossarieux. Bonjour Morgane, qui est autrice chez Actu SF et les éditions du Serpent à Plumes. Vous avez sorti Rouge Toxique chez Actu SF et Techno Fuex, c'est ça. Très bien. À ma gauche, Ophélie Bruno, qui écrit une série Anna l'étoilée aux éditions du Chat Noir. C'est très bien. Antoine Cadeau, au fond, qui lui organise des jeux de rôle grandeur nature. On va revenir sur cette passion. Et au centre, Antoine Mautier, qui est traducteur et aussi photographe. Et donc, on essaye de mettre ses photos pour qu'on puisse aussi regarder ça. Mais on est en train d'y arriver au fur et à mesure. Voilà. Et moi, je suis l'œil de Chéri, je suis journaliste pour le magazine Le Point Pop. C'est l'instant publicité. Nous avons sorti ce très bel hors-série. N'hésitez pas à la librairie. Voilà. Pour commencer, j'ai demandé, et vous allez tous me dire, vous, comment vous êtes tombé là-dedans, dans cette envie de se déguiser? Comment c'est arrivé? Comment vous êtes tombé dans la marmite? Alors, Morgane.
Pourquoi c'est moi qui commence?
Parce que.
Alors déjà, moi, au début, je savais pas trop ce que j'allais pouvoir dire sur cette table ronde parce que évidemment, il y a sûrement beaucoup de gens qui pensent que je me déguise, mais moi, j'ai pas l'impression de me déguiser. Donc, c'était quoi la question?
Alors pourquoi?
Pourquoi? Je pense comme tout adolescent au début pour appartenir à une tribu, et puis moi ça a toujours été plus ou moins lié à des mouvements musicaux, donc j'ai parti dans le post-punk, ensuite je suis dans le punk, ensuite dans la oi, maintenant je suis dans la techno, donc je pense que bien malgré moi les influences extérieures font que mon look évolue au fil du temps. Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est que souvent on a l'idée que ça part de conventions de science-fiction, de fantasy, de jeux vidéo, de manga, mais on oublie que ça part aussi par la musique. Aussi. Antoine Cadeau, comment vous êtes tombé dans la marmite?
Alors, personnellement, Tumblr, voilà, j'ai rencontré des gens magnifiques là-bas, et puis après, je me suis questionné à la fois sur le genre et aussi sur le jeu de rôle, et donc du coup, en faisant ça, je me suis intéressé à tout ce qui est maquillage, costume, et donc le jeu de rôle, pour moi, ça a été la porte, mais après, ça m'a ouvert beaucoup plus de pistes pour découvrir, pour m'interroger sur quoi faire avec ça là, tout ça là.
Ophélie Bruno.
Alors ça va peut-être surprendre du monde, mais moi ça m'est arrivé de façon pas forcément évidente pour les gens à qui le mot va dire quelque chose. C'est arrivé par Nahulbuck. Alors non pas parce que j'ai fait des cosplays de l'elfe de Nahulbuck, parce que ça c'est quelque chose que je n'ai absolument jamais fait. Mais parce que à une époque où j'étais jeune salariée, très sage, très rangée, j'ai commencé à fréquenter John Lang et les membres du Nahul Band, et entre autres à les accompagner sur du jeu de rôle grandeur nature, à les accompagner sur des fêtes médiévales, à les accompagner sur ce genre de choses. Et en fait, ça a réveillé un petit peu... la petite fille en moi qui adorait mettre des robes pour le carnaval, pour ce genre de choses. Et je me suis dit, tiens, mais en tant qu'adulte, on peut aussi porter ce genre de vêtements, on peut aussi se faire plaisir, on peut se glisser dans la peau de quelqu'un d'autre le temps de la soirée. Et au départ, on m'a prêté des robes, et puis j'ai fini par m'en acheter. Voilà, hein, les choses se sont faites comme ça. Jusqu'au point où j'ai légèrement changé mon style vestimentaire de façon à incorporer quelques éléments de ces looks que j'appréciais dans ma vie de tous les jours. Et aux dernières nouvelles, ça ne m'a pas posé problème dans ma vie professionnelle. C'est quand même important de le préciser.
Antoine Mottier.
C'est venu à la base de plusieurs projets photographiques. À la base, je faisais beaucoup de photos de paysages. En fait, j'étais un grand paysagiste, les bords marins. Et puis, j'avais beaucoup de mes amis qui étaient photographes et qui photographiaient les gens. Et moi, c'était pas mon truc. J'avais l'impression de, quand on photographiait les gens, d'être un peu comme un boucher devant un étal de steak. C'est-à-dire que prendre des gens en photo pour un projet artistique, c'est pas mon. Faut qu'il y ait une visée derrière, faut qu'il y ait un amusement derrière. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé de, à la fois, décomplexer mon travail, mais aussi de décomplexer les modèles avec qui je travaille, puisque prendre en photo quelqu'un, c'est quelque chose qui demande du travail, de la préparation, de la connaissance aussi entre moi et la personne. J'ai décidé de les travestir, de les déguiser, de les maquiller. C'était aussi un travail de recherche. J'avais déjà fait quelques recherches sur le maquillage, sur les masques, les costumes, les hautes formes. Et de fil en aiguille, j'ai accumulé un stock de fripes et je leur ai dit, vous prenez ce que vous voulez dans le tas, on vous maquille, on vous costume. J'ai 2-3 figures imposées et on va s'amuser. C'était un moyen vraiment de se décomplexer tout en respectant une charte graphique qui, moi, m'intéressait, un univers qui m'intéressait.
Vous avez évoqué presque tous les quatre, cette idée de communauté, cette idée de tribu. Qu'est-ce qu'on retrouve? Et là, je vais m'adresser à Antoine Cadeau. Qu'est-ce qu'on retrouve? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette communauté pour les gens qui n'y connaissent rien comme moi?
Alors, la communauté géanistique ou la communauté Tumblr?
Géanistique.
Dans la communauté géanistique, alors je vois des cosplayers ici, je ne sais pas s'il y a des géanistes, mais je pense que. Bon, à part ceux que j'ai amenés. Mais je pense que.
Il y a des gens qui ont levé la main.
Voilà. Mais je pense que tout le monde sera à peu près d'accord avec moi pour dire que quasiment tout le monde connaît tout le monde de près ou de loin. Et par exemple, il n'y a pas longtemps, on a perdu une amie. La plupart des gens qui ne connaissaient pas cette personne connaissaient au moins une personne qui la connaissait, qui en était proche. Et pour beaucoup, c'est en fait ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une communauté qui prend énormément soin des uns et des autres. Et qui surtout s'intéresse en fait à l'impact qu'a le personnage sur la personne et à l'impact qu'a la personne sur le personnage. Du coup, on se retrouve dans des situations où beaucoup pleuraient autant le personnage que la personne. Et donc c'est quelque chose que certains trouvent dommage, d'autres. Mais pour moi, c'est quelque chose qui dépasse ça en fait. C'est une famille qui a beaucoup plus de membres que de corps, en fait.
Ophélie ?
Ça, c'est vraiment la question piège, pour le coup. Quel est l'intérêt d'être en groupe ? On est beaucoup mieux en groupe que tout seul, enfin. Après, je suis plutôt quelqu'un d'introverti, donc j'ai besoin de mes moments aussi toute seule. Mais je pense qu'il y a des tas d'activités, des tas d'intérêts que je n'aurais jamais découvert en y allant toute seule. Et se retrouver avec des amis et découvrir ensemble un nouvel univers, une nouvelle passion, c'est infiniment plus sympa que de juste tomber dessus par hasard et puis d'y aller tout seul. Hein. Enfin, ça me paraît assez évident à ce niveau.
Morgane, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre communauté musique et communauté rôliste, cosplay?
Parallèle dans le sens, en fait, moi ce qui me plaît dans les communautés, c'est que quand c'est par rapport à un centre d'intérêt culturel, on va se retrouver avec des gens qui ont un psychisme pas si éloigné du nôtre, donc souvent on va s'entendre bien, et je pense que c'est là que le groupe devient intéressant, c'est rencontrer des gens qui pensent un petit peu comme nous. Donc je trouve que c'est pas bien de s'isoler que justement dans un groupe et de pas voir ailleurs, parce que c'est pas si enrichissant que ça au final de se retrouver qu'avec des gens comme soi, mais c'est quand même assez agréable de ne pas avoir besoin de dire grand chose pour se comprendre, d'avoir les mêmes références culturelles, et je pense que c'est ça qui plaît beaucoup au-delà du déguisement. Le déguisement, c'est juste pour se reconnaître et pour dire bon, nous on fait partie de ce truc là Mais c'est avant tout ouais, des personnalités qui se rencontrent.
Antoine ?
Mes modèles, en fait, c'était une simple histoire à la base de planning. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de gens qui connaissaient mon travail, qui voulaient travailler avec moi. Et qu'organiser une séance de shooting photo, c'est un peu compliqué en termes de planning, en termes de logistique. Et je m'étais dit, on va aller chez un de mes amis, on va utiliser son jardin. Et au fur et à mesure, on faisait la liste des gens qui venaient et on arrivait à une quinzaine de personnes. Je crois que si tu fais avancer un tout petit peu, il y a une scène où il y a quasiment tout le monde à part deux personnes qui sont venues. Donc j'avais à peu près 15 personnes à gérer et j'avais un assistant qui me donnait un petit coup de main logistique juste pour l'aide. Et en fait, ça a fédéré quelque chose entre mes modèles, c'est-à-dire que c'est pas forcément des gens qui se connaissaient, ils venaient à peu près tous de milieux différents, il y en a certains qui se connaissaient entre eux, mais ils sont restés amis entre eux, c'est-à-dire que maintenant quand ils se revoient parfois ils me font hey, tiens, c'est mon copain avec qui j'ai fait telle scène, j'ai la photo chez moi et on se marre bien, mais on se revoit une fois tout, on se revoit à un vernissage, on se revoit à une expo. Et ça a pas mal tourné, c'est-à-dire que les amis des amis voudraient que je continue ce projet et voudraient faire aussi la même chose, chose qui n'est pas forcément possible ou auquel je n'ai pas forcément réfléchi. Pour moi, le projet maintenant était fini, clos, mais on continue à se revoir et à boire des verres ensemble. Et sur les prochains projets, bon, je prends des choses qui vont être mortes la prochaine fois, donc ça va être dur de les réunir et de tisser une vraie communauté. Sauf peut-être si vous allez dans des muséums d'histoire naturelle, mais ça, c'est, vous verrez des dinosaures, je les aurais peut-être pris en photo, mais ils ne vont pas communiquer entre eux. Mais dès qu'on fait un projet participatif, il y a toujours des liens qui se créent. C'est comme l'OGN, chacun travaille sur son personnage, mais on est une communauté, généralement on travaille dans des clans, et le clan, généralement, c'est une sur-communauté, c'est un sur-groupe par rapport à ce sous-groupe. Et ça tisse des liens, des micro-liens comme des macro-liens.
Alors, petite question à vous quatre. Comment vous expliquez le succès du steampunk ? Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui vont s'inspirer du style steampunk. Donc il y a un genre dans la science-fiction qui mélange 19e siècle, futurisme, machine. Je pense souvent à Steamboy, le dessin animé. Comment vous expliquez cette appétence pour le steampunk ? Félie ?
Je crois qu'il y a le côté exubérant. On vit quand même dans un monde où si on sort dans la rue, bon là aujourd'hui dans la salle c'est un peu moins le cas, et je pense que ça c'est un truc qui m'avait frappé quand j'étais revenue d'un précédent festival où je me suis retrouvée à la cantine de mon bureau et à me dire mais où sont les cheveux colorés et où sont les tatouages, voilà. Mais dans le monde dans lequel on vit, il y a quand même une certaine uniformité dans la rue, des tenues qui sont globalement assez neutres. Et le steampunk, c'est le contraire de ça, c'est intégrer des éléments disparates qui viennent d'époques différentes, voire qui ne viennent d'aucune époque en particulier, parce que si on voit la façon dont le steampunk utilise le corset, ça ne correspond à rien d'historique, c'est vraiment quelque chose de tout à fait neuf. Et on prend ces éléments et on les agence comme on en a envie. Et ce qu'on voit souvent sur les costumes steampunk et dans l'esthétique steampunk, c'est que ce sont des choses extrêmement chargées. On va mettre double dose de volant avec dentelle d'un côté et cuir de l'autre. On va suraccessoriser. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui manque un peu dans la vie de tous les jours. Cette idée d'en faire plus, de se faire plaisir à ce sujet. À mon avis, ça explique une bonne partie, le fait qu'il n'y ait pas plus de règles que ça, qu'on ne soit pas obligé de s'en tenir à un ordre esthétique précis. Il y a des réinterprétations steampunk de super-héros, il y a du steampunk d'inspiration asiatique, etc., ou des choses qui peuvent être à la fois très futuristes et d'autres beaucoup plus victoriennes. C'est vraiment, à mon avis, c'est la liberté d'interprétation de cette esthétique qui attire autant de monde. Après, c'est juste mon avis personnel, sachant que je ne suis pas plus à fond dans le steampunk que ça, personnellement. Je pense que ça joue beaucoup dans l'attrait de cette esthétique.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Ophélie, surtout que dans l'univers steampunk implique beaucoup de postulats sociétaux et politiques qui permettent en fait d'interpréter plus ou moins, enfin pas forcément un personnage au sens où on va le jouer, mais d'avoir un costume qui va représenter des archétypes en fait de personnages qui sont extrêmement variés et qui sont extrêmement poussés. C'est un scientifique qui va avoir énormément de bardas très très étranges qui partent dans tous les sens et qui va vraiment avoir une personnalité très forte. On a ceux qui vont être avec la gavroche et les lunettes d'aviateur et qui vont courir un petit peu partout avec le visage couvert de suie et qui eux vont avoir plus le fil ouvrier du steampunk. C'est pas juste que l'univers est varié, c'est qu'en plus tout ce qui est, toutes les petites niches entre guillemets de cet univers sont extrêmement représentatives, archétypales et jouissives en fait, parce qu'on peut être dans la débauche de variétés et de détails comme tu le disais. Au niveau de l'interprétation, c'est le rôliste qui parle, mais au niveau de l'interprétation de personnages, c'est extrêmement riche et extrêmement jouissif, je pense.
Oui, je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un personnage de soutier dans un univers steampunk que de paysan dans un univers médiéval fantastique, voilà, par exemple. Au niveau des possibilités qu'on a en termes d'aventure, par exemple, je pense que c'est incomparable.
Morgane ?
Alors, je ne suis absolument pas spécialiste du steampunk. Par contre, moi, ce qui me choque, mais peut-être que je me trompe, c'est que c'est avant tout un mouvement qui va passer par le déguisement, par les habits, et même s'il y a des œuvres de steampunk littéraire ou filmique, je trouve que finalement c'est pas si important par rapport à tout ce mouvement de déguisement et d'habillement. Et c'est vrai que souvent je vois en convention plein d'amis qui vendent des livres sur le steampunk et on voit plein de nanas habillées comme pas possible, et je suis sûre qu'elles ont jamais ouvert un livre de leur vie ou même qu'elles ne regardent pas de films sur le steampunk. Et je pense que c'est en ça que c'est fort, c'est un mouvement vraiment très beau et très esthétique et qui transcende même l'œuvre littéraire. Donc je pense que c'est pour ça que c'est un mouvement dans le déguisement qui prend autant de place.
Oui, d'ailleurs, c'est tout le paradoxe de ce mouvement, puisque historiquement, la naissance du steampunk, c'est Tim Powers, Les Voix d'Anubis, donc c'est une œuvre littéraire. Et je me souviens qu'on était sur une convention ou un festival, je ne me souviens absolument plus lequel, mais il y a eu des gens en tenue steampunk assez magnifique par ailleurs qui s'arrêtent sur un stand de livres et qui voient des livres steampunk, donc des aventures. Je crois que c'était l'anthologie du Chat Noir sur le temps qui était une anthologie steampunk, et ils avaient l'air tout étonnés. C'est ah, ça y est, ça marche tellement bien que maintenant on en fait des livres. Ils savaient absolument pas que leur courant esthétique était d'origine littéraire. Ça, c'est tout le paradoxe du truc, c'est qu'il y a une bonne frange des personnes qui s'habillent steampunk à la première occasion qui le font de façon complètement décorrélée de tout le mouvement littéraire, artistique qu'il a pu y avoir derrière. C'est tout le paradoxe.
Est-ce qu'il y a, on peut, parce qu'on a évoqué donc l'idée de se déguiser et l'esthétique, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question liée à la sexualisation aussi des corps? Je m'y interrogeais parce que peut-être certains ou certaines d'entre vous sont allés à la Japan Expo déjà ou dans du cosplay, et c'est vrai que donc, en fonction de grandes franchises, et je pense particulièrement à One Piece, on voit que certains personnages féminins ont des fortes poitrines, et puis on voit dans les conventions donc des jeunes femmes ou des femmes le déguisement c'est en fait la forte poitrine, et c'est vrai que des fois ça peut vraiment poser question, parce qu'on se dit ah oui d'accord, le déguisement est visible, mais en effet ça pose aussi question, je pense, mais c'est lié aussi au manga et qui ont aussi une sexualisation dans les personnages qui est très marquée. J'ai discuté avec Hiro Mashima, donc qui est un mangaka assez connu, et lui, quand je lui disais mais vous voyez que dans votre manga vous êtes obligé de mettre des personnages à forte poitrine, il m'a dit très pragmatiquement bah bien sûr, on a fait un test avec les lecteurs, ils aiment ça, donc on en met. Donc peut-on relier ces sexualisations et aussi cosplay? Antoine?
Alors pour le coup c'est vrai que c'est un truc qui est très courant, et en plus je trouve que c'est un petit peu triste en fait de constater cette mouvance là notamment dans les mangas, parce qu'en plus beaucoup de classiques du manga et de l'animé n'ont pas une sexualisation si importante. Je veux dire, on cite souvent pour dire ah, c'est pour faire de la pub d'un manga, de dire que ça ressemble à Miyazaki. Est-ce que vous voyez beaucoup de sexualisation dans Miyazaki? Pareil, un des classiques de l'anime, c'est Fullmetal Alchemist. On a énormément de personnages féminins. Il se trouve que ces personnages féminins ont souvent des fortes poitrines, mais ces fortes poitrines ne sont pas spécialement mises en avant. Et le personnage dépasse tout simplement ce corps. D'ailleurs, la thématique du corps dans Fullmetal Alchemist, on a plus.
Elle est omniprésente, oui.
Elle est dans les problèmes d'Edwards avec son automail, la douleur que ça lui inflige tous les jours, la difficulté. Mais ça, c'est pas moi qui vais en parler le plus. C'est juste que j'aime beaucoup les mangas. C'est vrai que ça m'énerve de constater cette tendance à la sexualisation dans les mangas récents.
Après, il y a une particularité. Fullmetal Alchemist, c'est un manga fait par une femme. Et si tu lis un petit peu les interchapitres, il y a un moment où elle raconte qu'on lui reproche, enfin, certains lecteurs lui reprochent, que ces personnages soient trop ronds au niveau du trait. Parce que c'est vrai que si tu regardes le shonen manga, les personnages ont tendance à être extrêmement élancés au niveau de la façon de les dessiner. Et elle dit déjà, un, c'est mon trait, et puis deux, j'ai pas envie qu'on ait l'impression que mes personnages ne mangent pas à leur faim. Donc, mais elle est parfaitement consciente au niveau de cette façon de gérer son chara-design qu'elle est à contre-courant d'une certaine façon de faire qui est le classique dans le shonen.
Il y a aussi le simple fait très, très pragmatique de vouloir absolument adapter une image sur quelque chose, sur un costume, sur quelque chose qui est en 3D. C'est de s'appropriation. Il y a l'appropriation du costume et on parlait justement de se décomplexer quand on porte un costume. Ça passe aussi par là quand on fait du cosplay et certains cosplayers le disent. Ce n'est pas tant la sexualisation qui les intéresse, mais de s'approprier n'importe quel personnage qu'ils ont choisi d'incarner. Peu importe les soucis physiques ou l'a priori que peut avoir quelqu'un de tout à fait extérieur au cosplay. C'est-à-dire que j'ai écouté une interview à une dernière convention de quelqu'un qui disait certes, ça peut être problématique dans certains types de conventions quand on voit des jeunes filles, de très jeunes filles qui s'hypersexualisent, mais moi en tant qu'individu et en tant qu'adulte, tel personnage avec tel décolleté, certes, je ne vais pas pouvoir avoir les mêmes décolletés, mais de porter la même tenue qu'elle, c'est quelque chose dont j'ai envie, parce que j'ai envie de respecter certains codes que je me suis donné. Après, on peut s'en écarter très bien, et certains le font sans problème, mais c'est une question d'appropriation, en fait, de personnages.
Mais c'est une des forces du cosplay, ça, parce que on voit assez régulièrement des gens qui portent des cosplays de personnages dont ils n'ont absolument pas le physique. J'en ai un souvenir absolument marquant. C'était un cosplay de Bleach du capitaine Zaraki. Alors, si vous voyez le capitaine Zaraki, pour les gens qui ne connaissent pas le manga Bleach, c'est un mec qui fait 2m10, qui a des cheveux en pique avec des clochettes au bout. Enfin, c'est vraiment la montagne. Et j'ai vu un jour un cosplay du capitaine Zaraki par une jeune fille de 16 ans qui devait mesurer 1m50 et peser 40 kilos toute mouillée. Et ben, elle habitait le personnage, elle avait une classe incroyable dans ce rôle. Donc c'est pas tellement une question, oui, s'il y a une forte poitrine. Le cosplay va pas forcément résider dans la forte poitrine, à moins qu'on soit dans ces cas de cosplay extrêmement minimaliste que vous pouvez voir parfois sur certains sites spécialisés, où tu reconnais que c'est le cosplay parce qu'elle porte la coiffe, et rien d'autre que la coiffe d'ailleurs. En dehors de ça, on n'est absolument pas obligé d'avoir le physique du moment qu'on recrée le chara-design, mais avec les contraintes, en effet, de la 3D, c'était un des personnages de Kenshin, une jeune femme qui porte un kimono qui glisse à moitié sur ses épaules. Et les cosplayeuses sont allées se plaindre à l'auteur en disant « Non mais c'est pas possible, ça peut pas glisser à moitié, ça glisse complètement et on n'y arrive pas. » Donc voilà, c'est le genre de contraintes qui peuvent aller parfois avec des costumes qui n'ont pas été conçus pour être portés, mais juste pour être dessinés.
Morgane ?
Moi, je trouve ça vraiment bien, ces petites parenthèses conventions où les jeunes filles peuvent assumer leur corps sans complexe, où on peut se dénuder, on peut se montrer, on peut afficher nos goûts par le corps. Et je trouve ça bien. Et puis même, je trouve ça limite, la plupart du temps, je suis limite, moi, je ne fais pas du tout partie des scènes cosplay. Et je suis un petit peu triste pour toutes ces jeunes filles qui ont mis vachement de temps à faire leur costume et qui finalement ne peuvent le porter qu'en convention. Et finalement, je suis assez contente de faire partie d'une scène où on peut aller en club tous les week-ends. Et parce que pareil, on se met en costume de clubbeur, donc pareil, ça va être des choses assez dénudées. Et dans ce mouvement-là, on a la chance de pouvoir se déguiser, entre guillemets, tous les week-ends. Et voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de conventions, du coup, pour faire ça.
Est-ce qu'il n'y a pas une spécificité ou une différence à la française dans le cosplay et dans le fait de se déguiser ? Si on regarde aux États-Unis, par exemple, on aime la reconstitution historique est très importante, on aime ça. On a l'impression qu'en France, on est soit dans un jugement, on a un jugement de valeur ou autre, et que, alors qu'en Angleterre, alors qu'aux États-Unis, on a l'impression que les gens sont plus ouverts en fait à se déguiser. Antoine, sur le jeu de rôle.
Alors, donc les GNistes, encore une fois, dans la salle, ont sans doute déjà eu le moment gênant où vous êtes dans un transport plus ou moins en commun à revenir de Candoria ou d'un autre Maslarp, à avoir votre marteau de guerre qui dépasse de votre sac et être en face d'une grand-mère, on va dire octogénaire, qui vous demande si vous communiez tous les samedis avec Satan. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez courant. Je pense que les cosplayers ont aussi dû connaître ça en revenant de la Japan ou d'une autre convention. Mais je ne pense pas vraiment que ce soit une spécificité spécialement française. Pour en avoir parlé avec des amis géanistes américains, ils ont aussi ce problème-là. Après, comme la voiture est plus répandue et que les grandes autoroutes où il y a strictement personne sont un petit peu plus communes, ça va dans le sens où on a l'habitude. Enfin, pour reprendre les mots de mon ami Sistline. En même temps, les stations-service, tout le monde a accepté que ce qu'on voyait dans une station-service au milieu d'une route américaine, c'était normal. Donc, enfin, c'était absolument normal, même quand c'est un gars de 2 mètres en armure de plaque. Donc, je pense que c'est plus une question de comment on gère les transports qui fait la réaction du peuple français. On devrait avoir un plus grand territoire, ça nous permet d'être mieux acceptés.
Ophélie, sur la question.
Sur la question de la comparaison avec les autres pays, alors j'ai assez peu de points de comparaison parce que je ne fais pas de correspondance, que ce soit avec des géanistes, des cosplayers, sur un autre continent. Maintenant, ce que je sais par rapport à la reconstitution historique, c'est que y a quelques personnes qui sont vraiment à fond dedans et si on a le malheur de faire une pince qui ressemble un peu trop à une découpe princesse, on va se faire pourrir. Donc c'est ces espèces de tenants de l'authenticité à tout prix. Heureusement, c'est juste des espèces de gardiens du temple un petit peu minoritaires. Et après, mon approche personnelle du costume est surtout de se faire plaisir. Donc s'il y a une découpe princesse, on va faire haha 2 minutes et puis on va l'oublier après. D'ailleurs... J'ai été particulièrement choquée, on va partir là-dessus, en voyant l'affiche du film Aladdin 2, de voir que le costume de la demoiselle avait une couture princesse. Alors là, déjà que j'avais pas envie de voir le film, si en plus ils sont pas fichus d'avoir une gestion de la couture qui ressemble à quelque chose, c'est pas la peine. Hein. Franchement, je vous le dis, n'y allez pas.
Antoine ?
Pour ce qui est de la reconstitution, je trouve que c'est des choses qui existent en France. Je dois traîner dans des groupes d'amis où ils en font de plus en plus. C'est pas forcément que des gardiens du temple.
Heureusement, c'est pour ça qu'ils étaient minoritaires.
J'ai beaucoup d'amis qui ont arrêté à cause de ça certaines compagnies de reconstitution historique parce qu'ils avaient des gardiens du temple au-dessus d'eux qui leur disaient. Ton point de broderie n'est pas viking du 9e siècle. On joue des varègues qui sont à l'est de la Baltique. Ce point n'existe pas. Ça allait jusque là. C'est pour ceux qui s'intéressent à la broderie varègue, il y a des traités, ça existe. On sait comment faire des choses, mais après, moi, je connais des gens qui s'amusent en fait quand ils font de la reconstitution historique. que ça soit du que ça soit du viking, que ça soit du moyenâgeux, du haut bas moyenâge, mais aussi du par exemple du napoléonien. J'ai un très bon ami qui a joué un maréchal d'Empire à la bataille de Waterloo, au bicentenaire de la bataille de Waterloo. C'était il y a 2 ans, je crois.
Oui, 2015, du coup, le bicentenaire.
Où il était à Waterloo, il y avait un spectacle monstrueux. Il y avait, je ne sais plus, ça devait être 15 000 ou 20 000 spectateurs. Et il jouait l'aide-de-camp de Napoléon. Et il s'est amusé, il s'est vraiment amusé. Il a fait quasiment toute la campagne napoléonienne dans le même rôle, où il refaisait tout le principe dans des costumes au fil d'or. Bon, c'était pas le même prix que s'amuser avec une compagnie de bande d'amis où on n'a pas forcément les moyens, mais c'était du grand apparat. Ce qu'on peut retrouver par exemple pour Gettysburg tous les ans, où des sudistes et des nordistes s'affrontent, tout en essayant des fois de changer les scénarios, mais le scénario ne changera pas d'un iota. Mais ce qui est intéressant dans la démarche, en fait, c'est tout ce qu'on peut apprendre avec cette reconstitution. C'est plus de l'artisanat, des connaissances historiques et des moments où on se rencontre dans des conventions, dans des moments de camp, mais ça reste pour la majorité des gens, comme pour l'escrime médiévale, de l'apprentissage, de la lecture et de l'historicité, en fait, et d'apprendre une autre version de l'histoire qui n'est pas celle des manuels scolaires, par exemple.
Morgane ?
Oui, pour en revenir, j'y connais vraiment rien en reconstitution historique, donc je vais revenir. La question, c'était à l'étranger, comment c'est perçu. Ouais. Bon, alors je vais parler que par rapport au tatouage, hein, parce que ça va être plus mon domaine de référence. Par exemple, en France, avec les tatouages que j'ai, je doute de pouvoir travailler autre part que dans un salon de tatouage ou dans un bureau très fermé, pas en contact avec le client, alors qu'à Berlin, ça ne poserait aucun problème. Enfin, je pourrais être engagée partout.
Voilà. Alors, je tiens à signaler juste au hasard que j'ai moi-même des tatouages visibles. Et bon, cela dit, j'ai une fâcheuse tendance à porter des manches longues pour les dissimuler, histoire d'éviter les problèmes. Cela dit, on a au service informatique, qui est vaste dans notre société, on a quand même une personne qui est couverte de tatouages des pieds à la tête. Donc je pense que ça commence quand même à se démocratiser un peu, si ça peut te rassurer.
Moi, je dirais que ça se démocratise beaucoup, sur un simple fait. Il y a un ou deux ans, je suis allé au cinéma, et comme au cinéma, à chaque fois, on passe des bandes-annonces publicitaires grand public. Et une banque bretonne, dont je tairai le nom, a fait tout un truc sur le tatouage, sur le fait « venez comme vous êtes » avec un transfert de tatouage, un peu à la McDo, mais un transfert de tatouage entre le client jeune et le banquier un tout petit peu moins jeune, mais qui portait aussi des tatouages. Je pense que le tatouage commence à mieux être accepté qu'il n'a pu l'être pendant tout le siècle précédent, où il était réservé à vraiment une frange de la population qui était très minoritaire et très, très connotée, en fait.
Après, le tatouage se démocratise, c'est vrai. Par contre, l'avantage du tatouage, c'est que c'est à peu près, enfin, de ce que j'en ai compris, c'est à peu près accepté pareil pour les femmes et pour les hommes. Par contre, pour le maquillage, si moi j'allais au travail, je suis surveillante dans un lycée professionnel, si j'allais au travail avec du maquillage, avec un petit peu d'eyeliner, un petit peu de fond de teint pour cacher le gris du bouc que je me suis rasé ce matin, je sais que je rentrerai tout de suite dans une case qui serait immédiatement pour les gamins fatalement, terriblement homophobe et absolument pas éduqué sur le genre, etc. Pour eux, je rentrerai dans la case PD et à partir du moment où je suis cible acceptable, je ne peux avoir plus aucune autorité. C'est même pas une question de est-ce que ma hiérarchie me soutiendrait, parce que bon, ça c'est à la limite, ça se fait au cas par cas, je peux pas accuser toute l'administration française, mais fatalement je ne pourrais pas faire correctement mon travail. Donc je suis obligé. Du coup, c'est pour ça que je prends même pas l'habitude de me maquiller plus que ça. Hier, je me suis amusé à me déguiser en cultiste avec des tatouages à la con sur le visage, mais c'est tout. parce que c'est juste un rêve dans lequel je me mettrai gentiment, et puis après il faudrait que je rentre, et là je peux pas utiliser d'eyeliner, sinon je me fais tabasser. Merde.
Morgane,
je sais plus ce que je voulais dire. Alors le fait que le tatouage soit mieux accepté en ce moment, enfin ça vient petit à petit. Dans un sens c'est très bien, et en un sens il y a quelque chose d'assez bizarre, parce que à la base les tatouages c'était aussi des signes d'appartenance, au début plutôt criminels, ou des choses dans des tribus. Enfin ça signifiait vraiment quelque chose, et là on arrive vraiment sur des tatouages qui ne signifient plus rien, que tout le monde commence à porter, et c'est aussi pour ça que c'est plus accepté. Donc ça participe au phénomène de hipsterisation. Donc en un sens c'est aussi c'est bien et pas bien, quoi. Voilà, c'est
ça. On a quand même l'impression quand on va en Angleterre ou aux États-Unis ou dans les pays nordiques, que quand même il y a beaucoup, même en Allemagne, il y a beaucoup moins de jugements sur les vêtements, sur l'apparence. C'est plus compliqué dans les pays latins. On a cette impression. Hein.
Ça, c'est surtout lié au fait de. C'est en fait plutôt philosophique et religieux, en fait. C'est qu'on a deux cultures qui se confrontent. Moi, par exemple, je possède cet engin qui est derrière moi, là, qu'on appelle un fauteuil ou une chaise roulante. Et quand je vais dans les pays anglo-saxons, nordiques, qui sont à majorité protestantes, le système philosophique de la considération de la personne est totalement différent que dans un système latin, où la compassion, plus ou moins religieuse à la base, se base. C'est-à-dire que si par exemple que j'ai besoin par exemple que d'aller n'importe où habillé n'importe comment dans un fauteuil, on me dira rien et on me laissera faire dans les pays anglo-saxons. Alors que si par exemple je vais faire mes courses et que je ne suis pas habillé en costard, il y a quelques temps je m'habille toujours en costume. Parce que je me costume, en fait. Les gens, à partir du moment où je suis en fauteuil, quand je mets le costume, me vous voient automatiquement. J'ai vu une époque où j'étais beaucoup plus jeune, j'étais jeune étudiant, j'avais un peu les cheveux longs comme maintenant, mais pas de barbe. On me regardait et on me vous voyait pas, ou on me regardait, on me faisait « Excusez-moi, vous avez besoin d'aide », avec beaucoup de condescendance. Je pense que le système de pensée anglo-saxon et le système de pensée latin est totalement différent sur ce genre de questions.
Et puis la transformation du corps, en tout cas dans la SF, c'est une thématique très, très importante. On a parlé du steampunk, on pense aussi au cyberpunk. Et quand même, la science-fiction a une appétence sur les questions de transformation du corps. Justement, on est là. C'est le thème de cette année. Morgane, sur toi qui as écrit Technopunk.
Technofreaks.
Technofreaks, pardon.
Sur la transformation du corps, le corps comme objet d'art. Alors, je n'ai pas vraiment travaillé sur les questions du transhumanisme, mais mes personnages, le personnage principal de Technofreaks, elle est performeuse, elle faisait de la suspension, et c'est vrai qu'elle est dans une recherche de transformer son corps pour en faire une œuvre d'art, quelque chose d'autre. Et elle fait un petit peu fait du tuning de voiture, elle se pose des nouvelles jantes. Elle, par exemple, elle projette de faire une installation vidéo où elle s'arracherait toutes les dents et elle se les ferait remplacer par des dents en or, enfin, ce genre de choses-là. Voilà, voilà.
Vous pensez à l'artiste Orlan, hein, qui transforme son corps. Il y a un documentaire qui est passé hier, je crois, sur elle.
Oui, elle s'est fait poser des... Elle a un rapport assez intéressant parce que du coup, elle... C'est vrai que c'est assez bizarre parce que dans les milieux underground, la chirurgie esthétique, c'est encore très mal vu, alors que si on regarde bien, c'est quand même pas si différent que le tatouage ou les modifications corporelles. Mais c'est vrai que du coup, la chirurgie esthétique, c'est plus pour ressembler à un idéal et finalement revenir dans la norme. Et cette artiste, Orlan, ce qu'elle a fait, c'est prendre les mêmes armes que les gens font. Bah, en fait, elle s'est fait implanter de la silicone, de pommettes pour se les mettre sur le front. Donc du coup, elle a détourné ce truc-là.
C'est ça. Antoine Cadeau.
Je pense aussi que là-dedans, il y a dans cette image de la chirurgie esthétique, je pense qu'il y a aussi une canonisation des standards de beauté bourgeois, en fait, tout simplement, qui fait que du coup, la chirurgie esthétique a cette image de, la, de l'idéal de beauté éternelle des riches qui veulent toujours être plus beaux. Et à ce moment-là, je trouve que le travail d'Orlan est intéressant là aussi là-dedans, parce que c'est une réappropriation des codes de beauté par l'art, du coup, et par la réflexion philosophique aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire avec son corps, qu'est-ce qu'on doit faire avec son corps, et quelque part, qu'est-ce qui va être le beau dans le corporel.
Est-ce qu'on peut... là, on va revenir sur la... sur les conventions, sur les cosplays, sur le jeu de rôle. Est-ce que il y a une dimension politique de se déguiser en convention ou pas, selon vous?
Alors, dans la convention, je ne sais pas. Enfin, tout est politique, donc je suppose, mais le lien, je ne le vois pas immédiatement là. Je sais que en GN, les modifications corporelles, le plus loin qu'on va voir, c'est des masques particulièrement invasifs, notamment les masques de gobelins ou d'orques. Ou de trolls qui vont être particulièrement difficiles à porter des fois. D'ailleurs, pour les gens qui ont envie de se cosplayer en orque, mais qui se disent que porter un masque pendant 3 jours sous le cagnard, ils vont peut-être mourir. La technique, c'est les serviettes hygiéniques. Parce que ça absorbe l'humidité, etc. Ça évite que le masque colle et qu'après, il vous arrache la peau dès que vous l'enleviez. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement, qui est extrêmement lourd. Mais politique, je ne pense pas, sauf pour refléter les organismes politiques propres à l'univers du jeu de rôle. Enfin, à l'univers du jeu de rôle auquel on joue, la diégèse, quoi.
Ophélie ?
À titre individuel, je pense que ça relève de la même logique que le tatouage, finalement, une réappropriation de son image, donc de son corps, donc de sa vie. Donc rien que ça, ça a une portée politique. Maintenant, ce qu'on en fait, la portée sera vraiment très dépendante de la personne qui porte le costume. Je pense que faire une zombie walk, ça n'a pas forcément la même portée suivant qu'on le fait pour s'éclater avec des amis ou pour peut-être, je ne sais pas, attirer l'attention sur les risques que court notre monde actuel. On peut imaginer des tas de choses. Il y a des gens qui utilisent ce genre de manifestation pour porter des revendications. Maintenant, c'est un moyen, je ne sais pas dans quelle mesure c'est le but. La portée politique, selon moi, c'est quand même quelque chose d'assez marginal dans l'action de se costumer.
En tout cas, on peut peut-être voir une distinction sociale, puisque j'ai l'impression que ça peut coûter cher de s'habiller. Ça prend du temps, ça prend de l'argent sûrement. Et tout le monde peut s'habiller ou se déguiser, mais peut-être tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour ressembler le plus parfaitement possible à la personne qui voudrait ressembler.
Alors surtout dans le cadre du cosplay, même s'il y a eu des évolutions au niveau des techniques qui ont rendu certains matériaux faciles à travailler, accessibles, ce qui permet aux cosplayers de se constituer leur costume, je pense qu'on a tous vu ces images sur Internet de personnes qui recréent à très peu de frais des costumes complètement cheap. Alors ça fait sourire et puis en même temps ils arrivent quand même à des approximations tout à fait acceptables de les faire chercher. Donc c'est à la fois drôle et puis oui, quelque part ça montre que si on veut avoir une meilleure approche ou du moins une approche plus poussée, il va falloir un certain budget ou à défaut de budget, du temps et du savoir-faire. Je me souviens d'une camarade qui, justement, c'était pour une zombie walk, elle voulait non seulement participer, mais se présenter à l'élection de Miss Zombie. Donc elle décide ça la veille. Elle regarde ses affaires. J'ai pas grand-chose. Ok. Elle regarde son portefeuille. Il est vide. Heureusement, elle connaissait quelqu'un qui travaillait dans les maquillages d'effets spéciaux. Elle a pu lui envoyer un message en disant « Voilà, je veux avoir l'air d'un zombie. » J'ai pas de matériel, j'ai pas de budget et c'est pour demain. Eh bien, le copain spécialiste en effets spéciaux lui a donné un certain nombre de petits trucs. Alors, après, je dis pas que c'est facile, elle a déjà un peu d'expérience dans le domaine du maquillage, donc déjà elle avait un petit peu le coup de main. Et puis elle y a passé la nuit, hein. Mais avec des éléments qu'elle a trouvés dans sa salle de bain, dans sa cuisine, elle a réussi à se faire des traces purulentes et un faux bout d'intestin à faire sortir d'une robe qu'elle a tailladée pour l'occasion. Elle a été mise zombie avec tout ça. Donc avec un budget quasi nul, puisque c'était de la récupération et qu'elle a juste sacrifié une vieille robe. Et en y passant la nuit, on peut être mise zombie. Maintenant, je ne garantis pas la reconstitution 18e siècle à petit budget en s'y prenant la veille.
D'ailleurs, est-ce que vous avez des conseils, avant de passer aux questions avec le public, tous les quatre, sur si on veut se lancer dans le cosplay ou dans les tatouages ? Antoine.
Les tatouages, bien choisir son tatoueur déjà, c'est une bonne base. Bien connaître savoir ce qu'on veut en fait au départ. Même si après un tatouage, ça peut toujours se retaper, ça peut toujours se faire modifier par quelqu'un d'autre ou quelque chose. Mais bien choisir son tatoueur et savoir ce qu'on veut faire, quoi. Parce que si vous allez dans une boutique de tatouage et que vous dites je veux que le dernier symbole tribal à la mode, le tatoueur, s'il est intelligent, va vous dire pourquoi, combien, et si vous vous dites parce que ça me plaît, ben, il va vous dire réfléchis encore, repasse dans deux semaines, on en discutera. Parce que c'est pas le tatouage, c'est pas un supermarché en fait. Ça peut être un supermarché quand on va en convention, qu'on achète des flashs et qu'on se fait tatouer ce qu'on appelle des flashs. Ce sont des dessins déjà prévus à l'avance. On ne choisit pas le... Enfin, on choisit le modèle qu'on veut, mais qui est encore disponible, mais on ne demande pas de création. Et ça peut être très drôle à faire. Moi, je ne l'ai pas fait personnellement. J'ai d'autres tatouages qui sont très personnels. Mais si on a envie de se faire tatouer un space cake sur un Bob l'éponge de Gautre et qui est aussi disponible, il n'y a pas de souci.
Et puis, ça peut arriver d'avoir un coup de cœur sur un flash. Ça ne m'est pas arrivé personnellement, mais ça peut arriver aussi de se dire « Oh, ce flash, il est pour moi !»
Voilà.
Mais c'est moins cher.
Et c'est moins cher. L'intérêt des conventions, c'est que c'est moins... Enfin, on propose du flash et c'est moins cher. Et en plus, vous rencontrez l'artiste avec qui vous pouvez demander des pièces beaucoup plus uniques. C'est surtout ça le truc. Mais... faut surtout réfléchir à ce qu'on veut. Et après, on peut partir sur un coup de tête. Moi, j'ai un copain, il vient de se faire tatouer tout le torse. Un des modèles qui est dans l'eau, qui vient de se faire tatouer tout le torse avec un copain, parce que sur un coup de tête, ils ont dit qu'ils avaient des biscottos, mais pas trop. Donc, il y a une espèce de bonhomme qui fait Popeye comme ça, avec des moustaches qui lui ressemblent, et qui est tout maigre comme ça. Mais c'est parce que ça fait rire et que c'est un gros adepte du tatouage et du piercing.
Morgane.
Moi, j'aurais plutôt tendance à conseiller de ne pas aller dans les grosses boutiques de tatouage qui font un peu à l'usine. Il y a plein de tatoueurs qui tatouent chez eux et souvent dans des conditions hygiéniques très très bien et qui souvent prendront plus le temps de travailler le motif avec vous. Et voilà, ne pas se mettre de barrière et ne pas avoir peur d'aller chez un tatoueur chez lui et pas en studio.
Antoine, si je vais me lancer dans le jeu de rôle, alors comment je fais ?
Alors pour les costumes, il y a le do it yourself et là pour le coup il y a des centaines de tutoriels sur internet. Après, si vous avez les moyens ou que vous avez juste la flemme comme moi et que vous êtes particulièrement maladroit de vos mains, il y a énormément de très très bons artisans qui font des créations absolument magnifiques sur le net, notamment avec donc du cuir ou du tissu. Et après, j'ai envie de donner les mêmes conseils qu'ils ont donné pour les tatoueurs, c'est bien connaître son artiste. C'est souvent beaucoup plus intéressant en fait de développer une relation avec un artisan qui connaît vos goûts à force. Là, par exemple, j'ai commandé à une amie une armure de cuir qui va arriver pièce par pièce. Parce que elle me connaît, elle sait exactement comment j'aime, quelle couleur j'ai, etc. J'aime, etc. Et je sais qu'elle fait du bon travail à temps. Et puis après, faites-vous des amis qui vous recommandent des gens ou des amis qui vous donnent des conseils et surtout des amis avec qui vous pouvez vous prendre un week-end pour faire le truc tous ensemble. Parce que mine de rien, si vous avez envie de faire, soit pas forcément pour un groupe, mais pour vous-même et ensemble, des armes de GN avec donc de la mousse et des barres de carbone, ou même juste des éléments de costume, le fait de le faire ensemble et de faire ça une affectivité sociale, ça donne une motivation qu'on n'a pas toujours tout seul dans son atelier le samedi après-midi.
Oui, okay. Surtout allez-y avec des amis et ou faites-vous des amis. Parce que... En y allant, je veux dire, quand on va, qu'il s'agisse d'un GN, qu'il s'agisse d'une convention, qu'il s'agisse d'une soirée à thème, et quel que soit le thème et quel que soit le type de costume, oui, ça peut aller des soirées des Caves Saint-Sabin, donc là je vais parler des Parisiens, mais aux soirées d'Emonia. Enfin voilà, on est vraiment sur un spectre extrêmement large de costumes possibles. Allez-y entre amis et ou faites-vous des amis, parce que le costume, si on est tout seul, finalement à quoi bon? Ce qui est sympa, c'est d'en faire profiter aussi le monde. Quand je mets un costume, c'est pas que pour moi. En général, je mets pas un costume pour rester chez moi. Je mets un costume pour sortir et pour partager des bons moments avec d'autres personnes. C'est à ça que ça sert aussi.
Et aller aux fripes.
La récup, c'est le meilleur des prix. Pour trois quarts de mes trucs, j'en ai eu à peu près pour 200 euros de budget max, inclus le service en porcelaine que vous voyez qui est juste devant. Et celui-là, je l'ai payé 10 euros totalement par hasard. Mais oui, non, tout ce qui est, si vous voulez, par exemple, qu'on joue dans des GN ou dans des époques qui sont contemporaines ou des choses comme ça, les vides-greniers, Emmaüs ou d'autres, c'est les meilleurs plans. On trouve des choses, les gens n'en veulent pas, c'est souvent du débarras, et on sert et on se retire vraiment à pas cher.
Bah après, il faut prendre le temps de chercher. Mais bon, toute façon, même si on veut du neuf, il va falloir le temps de le chercher aussi. Donc, c'est pas...
Puis si jamais vous avez envie de faire des décors aussi, parce que le GN, souvent, c'est des camps et donc une ambiance particulière, les encombrants, c'est une vraie mine d'or. Là, je connais un pote qui s'est fait comme ça tout son décor de tente à Candoria, avec la table, le service, etc., que avec des choses qu'il a trouvées dans la rue, une valise entière de trucs comme ça, et c'est absolument magnifique. Même un paravent il avait, c'est fou ce que les gens jettent, quoi.
Ah oui, mais j'ai eu un super coup de cœur pour une table basse l'autre jour. C'était le jour des encombrants dans ma ville. Après, je me suis dit, oui, mais tu la mets où? Donc, je l'ai laissée. Mais voilà, elle était vachement bien, cette table basse. Donc, si j'avais eu un décor à faire dans une tente, peut-être que je l'aurais prise.
Et après, un jour, dans ta tente, tu auras un flashback et tu te dirais, merde.
Exactement.
Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui.
Du coup, je voulais rebondir très vite fait sur ce qu'avait dit tout à l'heure Antoine. Alors la question, ce serait, pour vous, où est-ce que s'arrête la différence entre du coup une apparence civile et un costume? C'est-à-dire que c'est une question de fréquence ou de norme. Est-ce qu'un homme qui se maquille sera toujours considéré comme un costume? Ou alors, si c'est tous les jours, ça deviendra une apparence civile et non pas un costume? Ou quelqu'un en général qui porte un costume tous les jours, est-ce que ça restera un costume ou est-ce que c'est une apparence civile?
Bah dans les milieux underground, notamment le punk et le gothique, c'était assez marrant parce qu'il y avait une sorte de clivage qui se faisait entre ceux qui se disaient les vrais, les authentiques, et ceux qui se déguisaient pour le week-end. Donc les vrais, les authentiques, ça, il fallait avoir beaucoup de crâne rasé qu'on puisse pas le cacher, quelques tatouages apparents dans des endroits où on ne peut pas les cacher, et tous les autres, alors c'était forcément des imposteurs et qui travaillait, qui était intégré à la société, donc il y avait du fric pour s'acheter des vêtements vachement mieux. Et voilà. Donc moi, quand j'étais plus jeune, je traînais avec les vrais qui crachaient sur les autres. Bon, tout ça était un petit peu pathétique, hein, on est tous d'accord. Mais voilà, c'était assez drôle.
Mais la question n'est-elle pas de savoir finalement si la personne se sent simplement habillée comme elle a envie de l'être, ou si elle se sent en costume? Après tout, un exemple que tout le monde connaît, c'est Bruce Wayne, c'est quand il est en costard-cravate qu'il est déguisé. Sa tenue de Batman, c'est comme ça qu'il se sent réellement lui-même. Donc c'est vraiment une question de perception qu'on a de soi et de ce qu'on porte.
Antoine?
Et alors, pardonnez-moi presque, peut-être le claironnage LGBT ici, mais personnellement, je me sens déguisé tout de suite là, face à vous. Enfin, je suis pas, en tant que personne non binaire, vu que j'ai l'impression d'être costumé tout le temps. Je peux pas spécialement prendre les pronoms que j'aimerais tout le temps. Je veux pas spécialement tout le temps mettre le maquillage que j'aimerais. Et des fois, le costume, c'est un refuge dans le sens où c'est un endroit où je me fais pas péter la gueule. Hey.
une autre question ?
Oui. On va prendre une autre question. Monsieur.
Oui, bonjour. Alors, tout d'abord, un témoignage. Pour ma part, j'ai fait pas mal de grandeur nature, et en particulier le grandeur nature vampire, qui se pratique tous les mois. Donc, le costume est une composante du personnage, il définit le personnage, et me permettait, parce que j'en interprétais plusieurs différents, de me mettre dans la peau du personnage. Parce que sinon, c'est très difficile de switcher sans arrêt, et ça permet aussi aux autres joueurs d'avoir un repère. C'était assez pratique. Et la question, depuis quelques années, nous avons la chance d'avoir un super festival de métal dans la région. Il y a quelques années, on ne voyait pas un t-shirt de métal dans la rue en se promenant. Aujourd'hui, les t-shirts Hellfest, j'en vois à longueur d'année dans la rue à Nantes. Est-ce que ça ne joue pas aussi de la création de la communauté métal qui commence à ressurgir un peu en plein air et qui, du coup, se réapproprie un peu le territoire?
Alors, il y a une intersection très forte entre le milieu métal, le milieu imaginaire, le milieu rôliste et le milieu qui boit de la bière aussi. Non, c'est bête, hein, mais c'est une intersection très forte entre ces milieux-là. Donc oui, j'imagine que l'un va forcément ressurgir sur l'autre, et puis d'autant que le métalleux a lui-même ses codes entre guillemets tribaux, ça peut limite relever du costume. Oui, quand les copains ressortent la veste à patch, je sais très bien où ils vont, hein. Donc il y a ce côté costume, et oui, plus une communauté est présente, et moins elle va hésiter à s'afficher avec ses codes dans le monde civil, c'est évident.
Alors merci pour la réponse. Ce sera malheureusement le mot de la fin. Merci à vous toutes et tous d'être restés pour cette conférence. Et on peut retrouver donc... Ah.